17 octobre 2016, le conseil de ville de Sherbrooke s'est réuni. Nous avons pour nous en parler, comme toujours, avec nous le maire Bernard Sévigny. Monsieur Sévigny, avant de parler de ce qui s'est passé directement le 17 octobre, on va revenir sur ce qui s'est passé dans les derniers mois et même jusque dans la dernière année, parce que j'ai fait un peu un survol de voir, est-ce qu'il y a des sujets qui sont tombés un peu dans l'oubli, dont on entend moins parler. Entre autres, ce qui a été le sujet de discussion il y a un mois à peine, et là, tout à coup, on dirait que c'est complètement sorti du radar, la fameuse piste cyclable au-dessus de la 410. Où est-ce qu'on en est? Vous nous disiez que les travaux allaient se faire à l'automne. Est-ce que c'est débuté? Et sinon, est-ce qu'on a un échéancier, là, une idée de la chose, ou si c'est reporté tout simplement au printemps prochain?
Bien, non, les travaux ne sont pas encore débutés parce qu'on discute encore avec le ministère des Transports du Québec. Étant il y a aussi longtemps qu'il n'y aura pas une entente avec le MTQ, le viaduc appartient au ministère. Fait que nous, on ne peut pas agir avant d'avoir les autorisations du ministère et on me dit que c'est encore en discussion. Est-ce que c'est des travaux qui vont être longs à faire? Je ne crois pas, mais on est déjà rendu, on a passé la mi-octobre et normalement, ce type de travaux-là se termine quelque part avant la fin novembre. Donc, est-ce qu'on va avoir le temps? Et ce sera évalué, mais l'entente n'est pas encore ratifiée avec le MTQ.
Est-ce que vous savez ce qui achoppe là, dans tout ça? Est-ce que c'est ce que vous avez apporté comme modification? Est-ce qu'on a de la difficulté finalement au MTQ à reconnaître ça comme vraiment une piste cyclable éligible au dit programme, là, étant donné qu'on n'a pas tout à fait la largeur normalement normée par le MTQ et toutes les autres associations? Là?
Mais est-ce que c'est ça qui achoppe? Je ne pourrais pas vous dire là, les points sur lesquels. Est-ce que c'est simplement que bon, ça prend le temps nécessaire? Est-ce qu'il y a des problèmes à signer l'entente parce qu'on ne s'entend pas? Je ne pourrais pas vous dire les raisons, mais ce que je peux vous dire, on discute encore.
Donc, ce sont des fonctionnaires de la ville qui discutent avec les fonctionnaires du gouvernement.
Voilà, c'est comme ça que les choses se font parce que la décision politique a été prise, elle.
Très bien. Donc, dossier à suivre encore une fois. On essaiera d'en reparler peut-être avant que la neige tombe. Et sinon, ça ira au printemps prochain, c'est ce qu'on comprend. Ensuite de ça, suivi en octobre dernier, donc octobre 2015, on parlait encore beaucoup, et d'ailleurs tout au long de l'année 2015, on parlait énormément du fameux régime de retraite. Ça revenait à tous les mois ou presque dans nos entrevues. Et là, depuis un certain temps, on n'a pas entendu parler, ni sur nos microphones, ni dans les différents médias. Est-ce que la tempête s'est calmée? Est-ce que les syndiqués se sont calmés? Qu'est-ce qui se passe avec le fameux régime de retraite, là? Est-ce que ça s'est normalisé sans qu'on s'en rende compte?
Non, c'est parce qu'il y a un problème d'interprétation de la loi 15 sur est-ce que nous calculons le déficit actuariel sur la base du 31 décembre 2013 ou le 31 décembre 2014. Pour les contribuables de Sherbrooke, là, il y a 2 millions de différences à aller chercher dans l'effort des employés ou pas. Et évidemment, nous, notre prétention, c'est le 31 décembre 2013, les syndicats, eux, affirment en raison de la présence des pompiers dans le groupe des employés. Donc, eux, ils disent que non, c'est le 31 décembre 2014. Donc, on s'entend pas et ça a été soumis au tribunal. D'abord, à un arbitre et là, un tribunal et la question n'est pas encore tranchée. Dans plusieurs villes du Québec, là, les tribunaux ont été saisis de mêmes problématiques, donc semblables. Et là, on attend des jugements pour voir comment on va appliquer la loi 15 qu'on aurait dû négocier au cours de la dernière année. Ça ne c'est pas fait. Donc, quelles sont les conséquences? Tout ça reste à évaluer. Là.
Et là-dedans, est-ce qu'on a un échéancier ou, là, puisqu'on est devant les tribunaux, ben justement, c'est de report en report en report et qu'au final, on se retrouve un peu les mains liées là, là-dedans? Là.
Bien, on ne sait pas quand ça va être tranché, effectivement, parce qu'il y a des arbitres qui ont été saisis de ces questions-là. Et d'abord, ils ont évalué leurs compétences. Est-ce qu'ils sont compétents pour trancher une question comme celle-là? Sinon, les référer à la Cour supérieure. Donc, c'est un imbroglio juridique. Là, je ne pourrais pas vous l'expliquer davantage parce que ça devient complexe. Les raisons pour lesquelles il y a des recours comme ceux-là, on peut le résumer en disant qu'on ne s'entend pas et c'est devant les tribunaux. Et c'est ça qui fait en sorte que on n'est pas capable à ce moment-ci de s'asseoir et de commencer à négocier l'application de la loi 15. Ça veut dire que comment il faut s'entendre avec les employés, comment les villes vont récupérer la portion qu'elles peuvent et qu'elles doivent récupérer pour les fins visées par la loi, c'est-à-dire de rééquilibrer les caisses de retraite.
Et peu importe la décision, là, est-ce que c'est le genre de décision qui, après ça, va être portée en appel systématiquement? La ville perd, là, au final, on tranche, c'est 2014, vous vouliez 2013, on veut aller chercher 2 millions, on va en appel, ou si là, ça vaut plus la peine, parce que de toute façon, en frais d'avocat, on va tomber dans un gouffre, là?
Et ça va dépendre. De toute façon, les syndicats, nous, on pense qu'ils vont contester la loi 15 jusqu'à la Cour suprême. Alors, c'est pas demain la veille qu'on va arriver au bout de ça. Est-ce qu'en attendant, il va y avoir des décisions qui vont être rendues par les tribunaux? Ça reste à voir. C'est d'une grande complexité parce qu'il y a le législateur là-dedans qui a adopté cette loi-là. Et si la loi n'est pas respectée, on s'expose à quoi? Donc, c'est pour ça que je dis qu'on voit pas l'horizon à ce moment-ci. Ça peut se régler dans 6 mois, mais ça peut se régler dans 5 ans. Alors, c'est un peu difficile à dire.
On va maintenant se pencher sur ce qui s'est passé le 17 octobre dernier comme tel. Un des points qui a retenu mon attention, le point sur la patinoire réfrigérée bleu-blanc-bouge. Donc, c'est un leg de la Fondation des Canadiens pour l'enfance. On parle évidemment ici des Canadiens de Montréal, l'équipe de hockey, et qui offre une patinoire réfrigérée à Sherbrooke, patinoire qui va être installée au parc Alfred-Élie Dufresne, tout près du Buffet des Continents, pour ceux qui connaissent, à Sherbrooke. Et c'est quelque chose qui était annoncé l'année dernière, en décembre. On devait faire les travaux cette année. Je crois, oui, effectivement, qu'il y a eu des aménagements qui ont été faits. Et l'ouverture devait se faire pour cet hiver. Est-ce que là, oui, on est sûr de pouvoir ouvrir la chose, là?
Oui, en janvier 2017, c'est une glace qui est réfrigérée, donc ça va être beaucoup plus facile. Les travaux vont bon train. Et ce qui restait à faire, en fait, c'est la convention de legs. On doit signer avec la Fondation, dans laquelle convention, nous, on s'engage à animer le site, on s'engage à l'entretenir, donc on évalue à plus ou moins 45 000 $ par année. Et l'engagement de la Fondation des Canadiens, c'est d'en faire la promotion, parce qu'ils vont jouer ce rôle-là au moins jusqu'en 2021. Et dans cette convention-là, il y a le reçu pour fin d'impôt, parce que c'est un don qui est évalué à ce moment-ci. On parlait d'1,5 million, mais les deux parties vont devoir s'asseoir et évaluer l'ensemble du site. On l'évalue à combien pour s'entendre sur la valeur. Et à partir du moment où on s'entend sur la valeur, on va y mettre un reçu pour fin de charité. Donc ça fait partie de la convention qu'on a signée et ça fait partie des pratiques quand une organisation comme la Fondation des Canadiens offre une infrastructure de valeur. Quand même, on l'évalue à ce moment-ci 1,5 million, mais ça peut valoir un peu plus, un peu moins, c'est ça qui reste à déterminer.
Dans la promotion, là, vous dites que la Fondation s'engage à en faire la promotion. Est-ce qu'il y a déjà une idée? Est-ce qu'on va y aller sous forme vraiment de campagne publicitaire pour ça, pour la patinoire particulièrement?
Je ne sais pas la forme que ça va prendre. Je sais que la Fondation a plusieurs patinoires, donc dans la région de Montréal. Quel genre de promotion ils font, je ne pourrais pas vous dire. Mais l'engagement qu'ils ont pris et leurs obligations dans la convention de legs, c'est de faire la promotion de cette patinoire. Et nous, on a à l'animer. Donc, évidemment, ça va dans les deux sens. Et la raison pour laquelle c'est dans un milieu défavorisé, donc le Parc Dufresne, c'est parce que ça avait un sens. On a une responsabilité d'amener les jeunes, d'organiser l'utilisation de la patinoire et comment la promotion va s'inscrire là-dedans. Mais ça reste à voir. C'est nos services qui vont gérer ça avec la Fondation.
Un autre règlement qui a été modifié cette fois-ci, et c'est celui qui regarde le programme d'aide à la rénovation-restauration des édifices ayant une valeur architecturale et patrimoniale exceptionnelle. Alors, en quoi consiste la modification en question? Parce qu'on sait que c'est le genre de rénovation-restauration qui, à la base, coûte très cher quand on est dans les PIA particulièrement à haute valeur, là, et c'est de ce dont on parle ici.
Mais en fait, on a inclus l'Église. Là, on parle d'architecture, je dirais religieuse. Mais en fait, dans le règlement qui existait, il y avait le séminaire qu'on a aidé à réaliser les travaux sur l'enveloppe extérieure, la cathédrale, évidemment, la cathédrale, les travaux ont cours en ce moment, et il y avait l'église Saint-Peter's. Et là, une des rares églises qui reste, c'est Saint-Jean-Baptiste, donc sur la rue Conseil, et on a agrandi le territoire d'application de ce règlement-là parce que le conseil municipal a consenti à verser 100 000 $ pour la réfection de l'Église. Et il faut savoir, ce sont les églises qui sont reconnues par le patrimoine religieux. On ne peut pas faire ça pour toutes les églises. Donc, c'est des travaux de 2 700 000 qui sont financés aux deux tiers par le Conseil du patrimoine religieux. Et la ville de Sherbrooke paye 10 % des travaux sur l'enveloppe extérieure qui évalue à peu près 1 million. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a 100 000, en fait 95 000 de la ville de Sherbrooke et 5 000 de l'arrondissement de Fleurimont pour donner un coup de main au financement des travaux de l'Église Saint-Jean-Baptiste.
Très bien. Quand on parle d'architecture, de patrimoine, évidemment, on pense aussi, en dehors des églises, mais à tout le centre-ville de Sherbrooke. Vous avez annoncé dernièrement tout le projet de la Well Sud, la fameuse Well Inc. On annonce la démolition de bâtiments et ensuite la reconstruction. Et là, il y a certaines personnes qui déjà lèvent le doigt en disant, bon, est-ce qu'on va être fidèle au plan d'implantation et d'intégration architecturale du centre-ville? On est en milieu historique, est-ce qu'on va respecter ça d'un point de vue architectural avec ce qu'on va construire? Ou si on laisse carte blanche aux architectes et là, on risque de se retrouver avec une espèce de gros point rouge au centre-ville parce que c'est moderne, parce que c'est Inc. et IQ. Il faut que ce soit in parce que c'est le monde des affaires et il faut que ce soit moderne. Et là, on entend déjà toutes les justifications des architectes en question.
Ça va être moderne. Vous savez, un PIA, le but d'un PIA, c'est pas de reproduire des bâtiments historiques. Là, c'est pas ça le sens d'un PIA. C'est lorsque, évidemment, on parle d'intégration de bâtiments contemporains dans une trame historique qui est Wellington Sud, mais le PIA vise à ce que les élus puissent porter un regard sur la proposition des architectes. Est-ce que, par exemple, dans le bâtiment va devoir, ou bien dans les matériaux, ou bien, je vous le dis, je ne suis pas architecte, il va falloir avoir des références au cadre bâti. Qu'est-ce que ça peut être? Je ne pourrais pas vous le dire. Est-ce que souvent, c'est des clins d'œil, c'est d'inspiration, des matériaux, la façon de faire le bâtiment qui vient rejoindre un certain nombre d'éléments qu'on trouve sur la rue Wellington Sud dans ce cas-ci. Donc, c'est ça le PIA. Il faut que ce soit de bon goût, mais en même temps, il ne s'agit pas de reproduire l'hôtel Wellington. Est-ce qu'il y a des éléments architecturaux de l'hôtel Wellington qu'on pourrait retrouver dans le nouveau bâtiment pour faire un clin d'œil historique? C'est pas des choses qui sont impossibles. Et là, on va laisser l'imagination des architectes travailler. Mais le PIA dit, on réalise pas les travaux tant que le conseil d'arrondissement, et même dans ce cas-là, peut-être le conseil municipal, va porter un regard et il va faire les choix, va décider si c'est acceptable ou non.
Donc, c'est intéressant, là, parce que, justement, dernièrement, on a des élus qui disaient, il me semble qu'il y a tout un côté obscur, là, à tout ça. On n'en sait pas assez de ce qui se passe dans le fameux projet de la Well Inc. Là, on dit, là, le conseil municipal va avoir un mot à dire sur ce qui va être construit là. Est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir suivre le processus ou s'ils vont le recevoir le soir même, vont regarder la photo ou les plans et devoir se prononcer à brûle-pourpoint?
Non, il y a des prétentions dans votre question, là. C'est pas comme ça que les choses arrivent. C'est pas comme ça que les choses arrivent. Lorsqu'il va y avoir une décision municipale, le dossier va être soumis au conseil municipal. Quand vous parlez de la dernière minute, je l'ai déjà expliqué, je pense. Moi, je pense personnellement qu'en faisant ça, on a sauvé des millions. Je pense 8, 9, 10 millions contribuables cherbourquois parce qu'on le sait, on a des problèmes d'étanchéité au conseil municipal. Et c'était ça l'enjeu, c'est la raison pour laquelle les membres du conseil ont reçu l'information 3 jours avant la décision. Et c'est pas sur Well Inc, là, c'est sur l'achat de 5 bâtiments. C'est de ça qu'il s'agissait. Donc, à partir du moment où on avait des engagements des propriétaires, ça a été soumis aux membres du conseil municipal pour ces raisons-là. Mais pour le reste, là où on peut agir, quand il y a un PIA, ça veut dire, c'est une obligation qu'on soit un bâtiment municipal, que ce soit un partenaire, un privé, peu importe, qui lève un bâtiment dans un secteur PIA, ça prend l'approbation non seulement des services de la ville de Sherbrooke, mais du conseil d'arrondissement. Et quand c'est des grands projets, on les apporte quand même au conseil municipal. Donc, oui, il va y avoir un regard porté par des élus. Peut-être ça va être limité à l'arrondissement. On verra quel genre de projet qui va être analysé. Mais clairement, toute décision qui va impliquer un déboursé de la ville de Sherbrooke, ça va être soumis aux membres du conseil municipal.
Bernard Sévigny, maire de Sherbrooke, merci bien pour cette entrevue. On se retrouve donc dans quelques semaines. Quant à vous, chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à faire circuler l'entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.